Al Ken, verset 9, c'est pourquoi, car Hachema Babel, son nom fut nommé Babel, Kisham Bala Hachem, Sfat Kola Aretz, car c'est là que Dieu a mis en confusion la langue de toute la terre, ou Misham et Fitzam Hachem, et c'est à partir de là que Dieu les a dispersés, tout autres, Alpene Kola Aretz, sur la face de toute la terre. Nous avons là 9 versets, et c'est le récit de la tour de Babel. Alors, je résume, ensuite je vais revenir sur 2 ou 3 points d'exégèse qui poseront un peu plus profondément notre sujet. Je résume, c'est que la première problématique qui apparaît là, c'est de se demander si l'intention du récit biblique est de nous indiquer que le fait qu'il y ait langue unique était un bien, et que, on ne sait pas à la suite de quoi il y a punition, il en résulte une diaspora des langues, ou bien si c'est l'inverse, si c'est la multiplicité qui est au contraire positive, et que l'unité est dans quel sens apparaît comme négative. Je vous dirais qu'il y a des courants de commentaires dans les deux sens. Sans vous citer trop d'indications d'érudition, nous sommes familiers à un premier courant, et j'en dirai donc que quelques mots. Il y a eu révolte contre le principe d'unité, la langue unique a disparu. Il n'est resté que les langues particulières, alors on ne s'est plus compris, d'où la confusion des langues. Je donnerai un exemple très très simple. La situation dans un pays comme la France. Il y a une langue unique, le français, et chaque province est censée avoir son patois, lorsqu'elle l'a encore. Alors imaginons que le français disparaisse, parce qu'on se serait révolté contre le jacobinisme de la langue française, si j'ose dire, ne resterait que les patois provinciaux, à la longue, on ne se comprendrait plus. Et c'est un problème d'ailleurs qui risque de se poser à une autre échelle lorsque l'Europe aura fait son unité. Il y aurait un problème linguistique, probablement. On arrivera à trouver une solution, mais c'est une solution qui aura été préparée par des siècles de civilisation européenne, alors que c'est subitement que cette langue unique disparaît, eh bien il y a confusion subite. J'essaie d'indiquer que la première lecture avait une apparence magique, et j'essaie d'indiquer la deuxième, de telle sorte qu'on n'ait pas cette apparence magique. Ce n'est pas subitement que la langue unique a disparu. C'est l'implication du refus de l'unité qui fait que finalement, même si on emploie des mêmes mots, la signification unique disparaît. Et donc, il est bien évident que nous sommes très familiers à ce premier schéma de lecture. Je vais indiquer le second. C'est qu'il y a un risque d'une idolâtrie d'une humanité une, d'une, je dirais même d'une idolâtrisation d'une humanité une qui s'instaurerait comme une entité monolithique et en tant que telle s'instaurerait comme rivale de l'unité divine elle-même. Et c'est plutôt dans ce sens que le second courant des commentaires auxquels j'ai fait allusion briser ce risque, ce danger de totalitarisme unitaire, si j'ose dire, et de telle sorte que de mettre en évidence la richesse que représente la multiplicité des génies humains. Or, selon la tradition midrashique, apparaît là une réalité que je voudrais analyser assez rapidement, c'est ce que l'on appelle les princes célestes des nations. En hébreu, les sarim, les génies de chaque nation, qui président à l'histoire de chaque nation, qui sont une sorte de délégation de la providence de l'unique propre, déléguée pour l'histoire propre de chaque peuple, de chaque nation. Et on comprend qu'il puisse y avoir toute une série de hiérarchies à ce niveau, cela va jusqu'aux familles, aux tribus, aux familles, et en fin de compte jusqu'à l'individu. C'est tout le problème de l'angéologie. C'est un problème extrêmement difficile. C'est une des branches de la théologie qui est peut-être la moins connue de la culture moderne. Je ne vais pas pénétrer dans ce sujet. Je donnerai simplement quelques indications en disant que pour les religions traditionnelles, c'était un thème extrêmement familier. Pour les traditions, eh bien, pour les sociétés traditionnelles, cette idée que chaque société a sa typologie propre, son génie propre, et qu'il y a un ange tutélaire, mettez ça entre guillemets, il y a un génie céleste qui est le représentant au tribunal d'en haut de ce que représente la société en question dans l'histoire d'en bas, est une idée extrêmement familière. Alors, indépendamment des anges les anges représentent les volontés du Créateur unique. Indépendamment des anges qui président aux différentes fonctions du fonctionnement du monde, ce que nous appelons, nous les modernes, les lois de la nature, aux différentes hiérarchies de généralité des lois régissant les phénomènes, il y avait d'autre part ces anges qu'on appelle les princes célestes, en hébreu les sarim, qui président à l'histoire des peuples. Des peuples, et donc des tribus, des familles, jusque l'histoire individuelle. C'est une sorte d'élégation de hiérarchie de la providence une pour les différentes manières d'être la créature, les peuples, les nations. Alors selon la tradition, les 70 sarim, qui ensemble forment le tribunal céleste, apparaissent au moment de la dispersion de la tour de Babel. Tout se passe comme si, jusqu'à ce stade-là, il y a monothéisme strict à tous les niveaux, parce que la créature vivant, l'unité de la créature, était reliée directement à l'unité du Créateur. Mais à partir du moment où il y a un éclatement de la diaspora universelle, alors, je parle sous forme d'image, mais c'est plus qu'une image, alors apparaissent des réalités au niveau de la transcendance qui président aux destinées de chaque nation. On revient donc à la citation du Talmud par laquelle j'ai commencé cette analyse. C'est que le verset 1 du chapitre nous disait que l'humanité disposait simultanément et de la langue de l'unique du monde et parlait les 70 langages. Chaque fois que la Bible va indiquer la notion de multiplicité au niveau de la créature, c'est ce nombre de 70 qu'elle emploie. Il y a 70 nations, il y a 70 langues de base. On pourrait dire que toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les sociétés que nous connaissons dans le monde contemporain sont un nombre infini de combinaisons à l'infini de ces 70 nations de base. La Torah raconte donc l'histoire d'une humanité une jusqu'au temps de la révolte de la tour de Babel, avec encore une fois ces deux harmoniques, l'un positif. Le fait que l'humanité est une est extrêmement positif. Il y a un universel concret dans la civilisation humaine. Mais d'autre part, l'harmonique négative. Il y a un risque de monolithisme, de, employons des termes qui nous sont familiers, de totalitarisme, et nous savons ce qu'il arrive des sociétés unitaires. Ceci est brisé. Je crois que la réponse à la question que j'ai posée pourrait être trouvée dans la formulation suivante. C'est que c'était un bien que cette multiplicité humaine. Elle s'est déployée dans la catastrophe. Elle s'est déployée dans la perte de l'unité profonde. Mais s'il y avait eu sans doute continuité de ces deux éléments, et l'unité universelle, et la multiplicité des richesses, des différents génies, des familles humaines, selon l'expression biblique, alors nous serions peut-être dans ce temps idyllique. J'en arrive donc à une troisième remarque qui me semble importante, surtout en milieu juif. C'est qu'en milieu juif, nous sommes très habitués à l'idée de la notion de diaspora. Comme si la manière naturelle d'être du peuple juif, c'est d'être en diaspora. Nous voyons bien que d'après ce récit, il faut corriger cette pseudo-évidence. Selon le récit biblique, c'est la manière d'être catastrophique de l'humanité dès l'origine, après Babel, qui est l'état de diaspora. Et la diaspora d'Israël, qui sera racontée dans le récit biblique, est une diaspora seconde, qui vient se greffer sur la diaspora humaine, à des fins providentielles messianiques que le récit biblique formule. Ce n'est pas notre sujet. Mais d'autant plus qu'il n'y a pas Israël parmi, comme un des 70 peuples qui résultent de cette diaspora de Babel. Vous lirez attentivement le chapitre 10, le chapitre 11, où sont énumérées ces différentes identités humaines, et l'on s'aperçoit effectivement qu'il n'y en a pas une qui soit Israël. C'est plus tard que d'une certaine famille de ces 70 familles humaines, Abraham surgira et retrouvera la perspective de l'identité hébraïque dans cette perspective parallèle que j'ai indiquée dans la première analyse du projet de sainteté et du projet d'unité. Et donc la société fondée par Abraham, qui sera en fin de compte nommée Israël, ne fait pas partie des 70 nations de base. C'est un sujet pour lui-même, c'est un sujet extrêmement important. L'histoire permanente d'Israël par rapport à l'universel humain semble nous renvoyer cette donnée biblique en la caricaturant. Il y aurait l'humanité d'un côté, Israël de l'autre. Ça pourrait être formulé de mille manières. Mais je crois que vous percevez un peu l'importance de cette indication. C'est-à-dire, selon le récit biblique, eh bien, il y a les 70 nations de base, et puis une nation, 71e, va surgir très difficultueusement, si j'ose dire, pour suivre l'histoire des engendrements à partir d'Abraham, jusqu'à ce que cette nation soit engendrée, et qui a pour objet, finalement, a pour projet, cette unité perdue. Elle a, en tout cas, un témoignage d'idéal à travers l'histoire de l'universel depuis ce mois. Mais je voudrais revenir à cet essentiel de mise au point, c'est que nous avons vécu sur une fausse évidence pendant 2000 ans, semble-t-il, cette évidence que l'être de diaspora est connaturel à l'identité juive, alors que selon le récit biblique, l'être de diaspora est connaturel à l'identité humaine, et que l'être de diaspora est anormal en soi, et donc anormal aussi pour Israël, et qu'il ne peut être que provisoire. Voici donc que nous arrivons au fond de notre sujet. Quelle est la raison pour laquelle le récit biblique formule ce problème de l'unité humaine au niveau langage? Et je voudrais terminer, avant de vous passer la parole, sur une indication qui nous est donnée dans le Deutéronome, à propos d'un verset qui est très célèbre, qui vous est certainement familier, qui est le verset 6 du chapitre 4, et qui est le verset d'affirmation de l'unité divine. Alors, je vous lis le verset, et je vous lis immédiatement le commentaire de Rashi, à travers lequel nous allons retrouver notre sujet. Le lien entre le fait de pouvoir retrouver la langue une et le fait de pouvoir retrouver l'unité humaine, universelle, réelle. Voici ce que dit le verset. Shema Israël, je vous ai annoncé que vous serez familier, écoute Israël, Hachem Elokeinu, celui qui est notre Dieu, Hachem Echad, est un Dieu un. Très brève préalable. On a tendance à entendre ce terme de Echad, que j'ai traduit par un, comme s'il était Yachid, c'est-à-dire unique. Mais il y a une différence entre la notion d'unicité et la notion d'unité, surtout lorsqu'elle désigne Dieu. Il y a un monothéisme de l'unicité et un monothéisme de l'unité qui ne sont pas les mêmes. Je vais donner quelques indications très rapides là-dessus. Le monothéisme de l'unicité, c'est dire qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est unique. En hébreu, ça se dit yachid, unique. Alors que le monothéisme de l'unité, c'est l'affirmation que ce Dieu qui est unique, qui est seul à être Dieu, est un en lui-même. Alors que la première notion, la notion de l'unicité, peut, à force d'un effort de réflexion, être intégrée au niveau d'une pensée rationnelle, la notion d'unité dépasse infiniment les évidences de la raison. C'est un sujet important, je ne vais pas trop le résumer, donc j'en dirai quelques phrases et vous le direz immédiatement si c'est suffisamment clair. On peut assez facilement, ça a pris des siècles dans l'histoire de l'humanité, arriver à l'idée de l'évidence que s'il y a Dieu, il y en a un seul. Mais l'affirmation que ce Dieu qui est seul à être Dieu est un en lui-même est une affirmation qui est de l'ordre de la foi. Et c'est pourquoi, même si cela peut paraître un peu difficile de le formuler en français, on est obligé de dire qu'il faut distinguer le niveau d'un monothéisme de l'unicité. Nous partageons cette évidence avec tous les sémites, qui sont des monothéistes de l'unicité, en particulier l'islam, et d'autre part l'affirmation du monothéisme de l'unité. Et là, nous sommes en débat avec la tradition chrétienne. Et il suffit de dire le terme de trinité, qui est un dogme de la pensée chrétienne, pour que vous voyez l'importance de ce débat. Alors je donne un exemple, c'est que nous affirmons de Dieu, du Dieu unique, des attributs contradictoires. Et l'affirmation de l'unité du Dieu unique consiste à affirmer l'unité d'attributs contradictoires. Alors il reste contradictoire pour la pensée, mais pour la foi, cette contradiction est dépassée. Mais c'est une attitude de la foi. Dire que Dieu est simultanément bon et juste, c'est dire qu'il est un, mais c'est dire une contradiction rationnelle. Cette notion de l'unité dépasse la raison. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon. Pardon? Oui? Oui, je l'ai senti. Alors, je reprends l'analyse. Je crois qu'on me dit si elle est suffisamment claire. C'est la difficulté des conférenciers, surtout lorsqu'ils traduisent d'une autre langue, c'est que leur paraissent évidentes ce qu'ils devraient arriver à rendre évident. Alors, il y a une difficulté. C'est clair ce que je dis là. Eh bien, je reprends la définition de l'unicité. C'est ça? Mais ça dépend quel terme on emploie. Ça dépend quel terme on emploie. Voilà, en hébreu, le témoignage qui est porté, c'est l'affirmation que Dieu est Echad. Or, ce mot de Echad se traduit par un en français. Mais on a tendance à donner à ce mot de un le sens de unique. Alors je voudrais prendre le temps qu'il faut pour distinguer la signification du mot unique et la signification du mot un. Unique, ça veut dire il est seul à être ce qu'il est. Un, c'est tout autre chose. Cet être unique, il n'y en a pas deux. Nous affirmons qu'il est un en lui-même. Or, dans ce que nous connaissons de ses médiations avec le monde, eh bien, ces médiations que nous appelons les attributs sont contradictoires. Parfois, il se manifeste à nous comme bon. Parfois, il se manifeste à nous comme juste. Et nous affirmons que cela est un. Or, pour l'expérience comme pour la raison, c'est contradictoire. Et j'ajoute un peu d'explication là-dessus, vous me direz que c'est plus clair. Il y a deux vertus fondamentales qui sont en jeu dans ces deux attributs de l'unité. En fait, il y a 13 attributs de base de l'unité, j'en prends que deux. L'attribut de bonté, c'est l'attribut de charité. Et l'attribut de justice, qui est l'attribut de rigueur. Or, la définition de la charité, elle peut être formulée à différents niveaux, mais je la formulerai de façon simple. Être charitable, c'est donner à quelqu'un, même s'il ne mérite pas, à la limite, surtout s'il ne mérite pas. Parce que s'il le mérite, ce n'est que justice. Donc, finalement, on est charitable qu'avec ceux qui ne le méritent pas. Avec ceux qui le méritent, on est juste. Vous voyez les dangers de la charité lorsqu'elle est seule. On est charitable qu'avec les truands. Et ça mène à des catastrophes dans mon histoire. Bon, alors la justice est exactement l'inverse. La justice, c'est ne donner qu'à celui qui mérite et que ceux qui le méritent. Et par conséquent, lorsque je suis occupé à la conduite de justice, je viole l'absolu de charité. Et lorsque je suis occupé à la conduite de charité, je viole la justice. Alors comment dire que l'un c'est l'autre, que Dieu est un? Vous voyez l'importance de ce qui se découvre là. C'est-à-dire dire que Dieu est un acte de foi. Nous avons des motifs de savoir que nous avons eu expérience de cela. Ça s'est dévoilé à certains moments historiques de notre histoire. Cette unité mystérieuse s'est dévoilée. Mais lorsqu'elle est cachée, elle est objet de foi. Alors dire que Dieu est unique, à la rigueur, ça peut arriver à être une évidence rationnelle. En tout cas pour un croyant. Les polythéistes, non. Les polythéistes n'arrivent pas à cette évidence rationnelle. Pour les polythéistes, ce qui est rationnel, c'est le polythéisme. Parce qu'il y a un chaos des valeurs. Les absolus sont en conflit. C'est ce que la mythologie grecque appelait la guerre des dieux. Les valeurs sont toutes valeurs et toutes contradictoires. Le monde commence dans l'histoire d'un chaos des valeurs. C'est presque le récit biblique, j'ai un peu modifié. Alors, cette affirmation hébraïque du monothéisme de l'unité dépasse infiniment l'affirmation sémite générale, qui nous est familière, du monothéisme de l'unicité. Ceci dit, il ne serait pas faux de dire que le monothéisme de l'unicité est compatible avec le monothéisme hébreu, mais n'est pas le monothéisme hébreu. C'est bien clair. Alors que nous avons tendance à les confondre. Je dirais d'une autre manière. Lorsque, par exemple, Maïmonide félicite le monothéisme de l'islam comme étant un monothéisme authentique, ben c'est un monothéisme authentique de l'unicité. Ce qui n'est pas le cas des polythéismes. Mais ça ne signifie pas du tout que le monothéisme de l'islam soit le monothéisme hébreu. Le monothéisme hébreu est au-delà du monothéisme de l'unicité, c'est l'affirmation du monothéisme de l'unité. Et c'est précisément la théologie chrétienne qui en dévoile la difficulté. Est-ce que c'est clair? Vous voyez où est le débat? Bon, est-ce que ça a été plus clair maintenant? Top. Et alors nous avons trois lectures de ce verset. Une lecture, j'irai assez rapidement, on me dirait si c'est suffisamment clair, une lecture au niveau anthropologique. Une lecture au niveau théologique, plus ou moins. Et une troisième lecture qui va retrouver notre sujet au niveau de la réémergence de l'universel. Je l'appellerai au niveau messianique. Peu importe d'ailleurs l'adjectif, c'est par commodité d'exposition. Le commentaire que je vais suivre pose la question de la manière suivante. Ce verset est dit par qui à qui? Le verset dit « Écoute Israël, Hachem, notre Dieu, est un. » Qui parle à Israël pour lui dire « Écoute Israël, notre Dieu commun, c'est le même. » Et il est un. Mais que le verset de manière n'est pas simple. Hein. Alors, l'ensemble des commentaires peuvent être groupés en trois lignes de réponse. La première, c'est les enfants de Jacob, les tribus d'Israël, s'adressant à leur père, qui est le premier homme qui a reçu le nom d'Israël. La première situation, quand je l'appelle anthropologie, c'est quand les enfants de Jacob attestent vis-à-vis de leur père de l'unité de leur foi. Très rapidement, pour indiquer l'importance de cette lecture, ça va être la nôtre, c'est qu'il y a différentes manières d'être Israël, les tribus d'Israël. Elles sont chacune d'entre elles authentiquement Israël, Réuven, Lévi, Shimon. Et puis, il est nécessaire à certains temps de notre histoire de se souvenir de cela, que malgré les apparences, eh bien, je vais le dire en termes un peu simples, tous les Juifs sont Juifs, même les Juifs pieux. Et il est nécessaire de le rappeler. C'est-à-dire, c'est tellement invraisemblable que tous les Juifs font partie de la même entité qu'il est nécessaire de l'attester. Vraiment la thèse, le matin, le soir, en se levant, en se couchant, en voyage à la maison, comme dit le verset. Vous voyez que cette recherche de l'unité désigne bien une réalité existentielle dont on risque de perdre l'évidence. Nous sommes en être de diaspora. Et en particulier, le peuple de l'idéal de l'unité est en être de diaspora intérieure qui nécessite cette affirmation de témoignage permanente. Écoute Israël, et c'est les tribus qui s'adressent à leur père, Jacob Israël, celui qui est notre Dieu, j'ajoute, quelles que soient les apparences, c'est le même. Et je vais vous donner une illustration simple. Vous savez qu'il y a trois grands courants de la religion juive moderne. Le courant dit orthodoxe, le courant dit conservateur, le courant dit libéral ou réformé. Imaginez un rabbin orthodoxe, un rabbin conservateur, un rabbin réformé, dire ensemble cette phrase. Il va les croire. Vous voyez que ça dépasse la raison. Bon, c'est une indication en passant. Okay. Alors ça, il s'agit que de ces trois courants-là. Et si vous prenez les 22 partis politiques que nous avons la Knesset, imaginez-les ensemble dire cette phrase-là. C'est-à-dire que malgré les apparences, c'est une affirmation d'unité. Or, se reflète la diaspora humaine à l'intérieur de cette diaspora au second degré, qui est la diaspora de la société d'Israël. Deuxième lecture. J'y passe un peu plus rapidement. La deuxième situation, c'est Moïse s'adressant à Israël. C'est d'ailleurs la lecture du contexte historique de ce verset. Simplement, je vous l'indique, sans l'analyser, ça nous prendrait trop de temps. Effectivement, nous savons qu'il y a au minimum deux manières de se définir comme Israël, et dont l'unité est toujours problématique. Israël en tant que société, qu'elle se définisse comme nation, comme culture, comme peuple, et Israël en tant que religion. Et dire que l'un, c'est l'autre, l'un disant à l'autre, écoute Israël, Hachem, notre Dieu, c'est le même, vous voyez que ça désigne encore une situation de diaspora intérieure qui doit être unifiée et résolue. Mais j'en arrive à la troisième lecture, et c'est celle que nous donne Rashi. La troisième situation, c'est quand les nations du monde s'adressent à Israël pour lui dire, écoute Israël, celui qui est notre Dieu, sous-entendu à toi Israël, à nous les nations, c'est le même. Je vous signale très rapidement que nous sommes peut-être dans un temps culturel où on commence à entendre cela, dans certains balbutiements. C'est-à-dire lorsque se découvre l'immensité de l'ère des cultures qui se réclament du Dieu d'Israël, chacune à sa manière d'ailleurs. Comme si ce verset était dit par les nations s'adressant à Israël. Écoute Israël, Hachem, notre Dieu, toi Israël, nous les nations, c'est le même. Je ne cite pas l'archevêque de Paris, hein, c'est beaucoup plus général et universel. Alors voilà ce que dit Rachid. Le Rachid dit ceci. Hachem, Shehu Elokeinu Ata. Hachem, celui qui est notre Dieu maintenant. Moïse, s'adressant à Israël, dirait ceci dans ce verset. Velo Elokea Ode Kochavim, et pas le Dieu des idolâtres, ou Atidiyot Hachem Echad, est destiné à être un Dieu un, reconnu comme un, c'est moi qui interprète. Shenema, d'après ce qui est dit, un premier verset qui est un verset du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9. Kiaz erpor el amim, car alors je verserai sur les peuples, je déverserai sur les peuples, Safa Broura, une langue épurée. Likro Kulam Beshem Hashem, pour invoquer tous le nom de Hashem. Vous voyez le lien entre l'unité de l'universel humain et la langue qui a été appelée tout à l'heure la langue une, la langue de l'unique, qui est appelée maintenant, dans le prophète Sophonie, la langue épurée. Je crois qu'on pourrait arrêter l'analyse là. Je me borne à terminer le commentaire de Rashi. Venema, et Rashi cite un deuxième verset dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9. Bayomahu, en ce jour-là, et Hashem Echad, Dieu sera un, ou Shmo Echad, et son nom sera un. Et donc, si on résume, et vraiment avec beaucoup d'efforts de simplification, toutes ces indications qui sont quelques-unes parmi beaucoup d'autres, on s'aperçoit qu'indéniablement, le discours biblique parle du problème de l'universel humain en termes de langue unique, avec toutes les dimensions de signification et de problématique que cela implique et que cela représente. Et voilà, je crois que nous avons un peu bouclé cette énorme période historique qui commence à Babel et puis qui finalement s'achève dans une espérance de type messianique. Je ne peux que me borner à mettre en évidence ce qui est notre expérience contemporaine de l'intérêt renouvelé dans beaucoup de disciplines pour les recherches linguistiques et très probablement pour essayer de retrouver des instruments qui nous permettraient de nous approcher de ce que ces textes visent dans leurs commentaires ou dans leur dire direct, la langue unique, c'est-à-dire la langue de l'unité. Ce qui est en jeu, c'est l'unité des valeurs. Disposons-nous déjà d'une langue capable de s'exprimer, et bien entendu, à tous les niveaux. En vous parlant ce soir, j'ai eu conscience d'une difficulté du sujet. Tout se passe comme si nous traitons toute cette semaine du fait qu'il est impossible de communiquer. Mais pour se dire cela, on communique. Alors vous avez la parole.